De dire telle dette, effectivement, on la reconnaît parce qu'elle est légitime, et puis telle autre dette, on ne la reconnaît pas parce qu'en réalité, elle a profité à une infime minorité. Et donc, il s'agit bien de construire un mouvement politique, un mouvement collectif autour de ces deux mots d'ordre. Et puis, je dirais que désobéir à la dette, désobéir à l'Union européenne, c'est aussi une façon de dire que l'on veut rendre, nous, la parole aux citoyens. C'est-à-dire qu'on veut être du côté d'une politique vivante. Je dirais, il ne s'agit pas de rejeter les institutions qui sont en place. Il s'agit de dire que le pouvoir instituant, ce qu'on pouvait appeler la démocratie directe, ce qu'on peut appeler l'autogestion, la démocratie participative, ça requiert la mobilisation des gens. Et que rien ne pourra se faire sans un surcroît de démocratie. Je dirais que pour nous, cet appel à développer la désobéissance, c'est un appel à ce que les citoyens deviennent toujours plus actifs. Et je dirais que si nous avons voulu que ce deuxième forum national de la désobéissance soit dans le prolongement, mais un petit peu différent du premier, c'est bien aussi parce que nous voulons donner davantage la parole, y compris à tous les gens qui choisiront d'être présents. Lors du premier forum national de la désobéissance qui s'était tenu en octobre 2011, on avait réuni plus de 40 organisations. Hein, des faucheurs d'OGM, au collectif Jeudi Noir, au planning familial. Et l'objectif, ça avait été permettre de prendre conscience de, je dirais, ce pullulement, de cette richesse extraordinaire de tout ce qui résiste, de tout ce qui désobéit aujourd'hui. Et de montrer surtout qu'on n'a pas à chercher à hiérarchiser. Moi, comme tout le monde, j'ai mes formes préférées de désobéissance. Mais finalement, ça, c'est mon choix personnel. Et je crois que notre première responsabilité, c'est de dire que toutes les formes de désobéissance, individuelles, collectives, institutionnelles, se valent. Et qu'il faut arriver à les mettre en convergence, à les mettre en tension. Et ce n'est que dans cette mesure-là que l'on arrivera à peser. Et puis, je dirais, à inventer un autre futur. Moi, je crois beaucoup à cette maxime qui nous vient des pays les plus pauvres, notamment d'Amérique du Sud, où on dit on ne pourra peut-être pas changer ce monde, mais rien ne nous interdit d'essayer d'en construire un autre. Donc, vouloir désobéir, c'est désobéir pour dire non. Hein, non à la dette, non au traité Mercosur, mais c'est aussi désobéir pour dire oui. C'est-à-dire pour multiplier les alternatives. La gauche, en 1981, avait su libérer un certain nombre de territoires comme les radios libres, comme les lois roux et la démocratie dans l'entreprise. Eh bien, aujourd'hui, il faut arracher à ce nouveau pouvoir de nouveaux territoires pour multiplier les alternatives, les expérimentations. Eh bien, nous, nous sommes de ce côté-là. C'est-à-dire, nous sommes du côté de ce bouillonnement de vie.
Justement, ces nouveaux... enfin, on voit ce que c'est, ben, nous, particulièrement Radio Canyon, on voit bien ce que ça peut être une radio libre. Hein. On l'a fait vivre depuis un moment maintenant, plus de 30 ans. Mais qu'est-ce serait-il? Vous avez des exemples de ces nouveaux territoires qui ne seraient pas accessibles et qui feraient nous rendre à nous, citoyens?
C'est tenu cet été le premier forum mondial de la pauvreté, hein, co-organisé par la principale communauté Emmaüs de France, celle de l'Escarpeau. Et le sarcophage. Et ce forum, qui a réuni 12 000 personnes hein, pendant 3 jours, avait finalement une sorte de ligne directrice qui était de dire il faut en finir avec le mensonge sur la réinsertion possible. Les naufragés du système, les paumés, ne pourront jamais retrouver leur place dans cette société. Non seulement c'est pas possible, mais c'est peut-être même pas souhaitable, compte tenu de ce qu'est cette société. Mais quand on dit ça, c'est pas pour s'apitoyer. C'est pour dire donc qu'il faut multiplier les alternatives, les expérimentations, dans tous les domaines. Dans le domaine de la construction, avec de l'éco-construction, dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation, dans le domaine d'une véritable économie sociale et solidaire, mais qui soit une économie sociale et solidaire de rupture, et qui ne puisse pas être récupérée par le grand patronat. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a en réalité un foisonnement d'alternatives qui existent, sauf que le système les rend invisible. C'est-à-dire que le système capitaliste rend invisible non seulement les milieux populaires, les cultures populaires, mais tout ce qui s'invente comme alternative. Rimbaud, au XIXe siècle, disait « il faut redevenir des voyants ». Eh bien, je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, premier grand objectif, rendre visible l'invisible. Prendre conscience de tout ce qui existe, mais que le système, je dirais, rend tout simplement invisible.
S'agissant de désobéir à la dette, je reviens un peu sur ce thème, pour un élu local, Est-ce que ça a un sens particulier, ces initiatives pour vous? Et puis, s'agissant de ces nouveaux territoires, et en vous écoutant, on devine qu'il y a pas mal de choses à faire, là encore, au niveau des territoires.
Désobéir à la lettre, ça a un sens tout à fait particulier pour un élu, parce que aujourd'hui, il faut le savoir, les collectivités territoriales de France ne sont plus en mesure d'emprunter. Non pas qu'elles ne peuvent pas rembourser la dette, mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de prêter de l'argent. Ce qui est quand même un comble, parce que de l'argent, il y en a. La Banque européenne prête à un taux qui est dérisoire, qui est de moins de 1%, et les banques traditionnelles prêtent, soit aux particuliers, soit aux collectivités territoriales, à plus de 3 et 4%. Donc il y a quand même quelque chose là où il faut s'interroger. Donc nous, collectivités territoriales, bien sûr, on ne se prive pas de faire des audits et de dire cette dette-là, elle n'est pas réelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas prêté de l'argent et on n'a pas remboursé uniquement ce qu'on aurait dû rembourser à la banque, mais on a remboursé le plus, ce qui fait que la banque s'enrichit sur le dos des contribuables locaux, parce qu'au bout du compte, ce sont les contribuables locaux qui payent. Mmh. Donc il y a cet audit-là institutionnel au niveau des collectivités, mais il y a l'audit citoyen qui se fait aussi, et les comités qui travaillent là-dessus sont extrêmement nombreux aujourd'hui en France.
Ah, c'est peut-être simplement sur la question de la monnaie. Je crois qu'on a un bon exemple avec la ville de Grigny, mais aussi avec d'autres villes, que désobéir, c'est pas seulement dire non. Lorsque la ville de Grigny ou d'autres villes créent leur propre monnaie complémentaire, c'est bien aussi une façon, non seulement d'être du côté de la création de monnaie au moment où on fait tout pour empêcher le développement de l'inflation. Alors pourquoi fait-on ça? Parce qu'on sait très bien que si l'inflation, qui était finalement la façon, je dirais, dont s'est faite la reconstruction hein, de la France, de ce qu'on a pu appeler les 30 Glorieuses. Je veux dire, si on ne veut pas de l'inflation, c'est parce que les premiers qui ont à perdre à l'inflation, c'est les riches, c'est ceux qui ont de l'argent de côté. Donc être du côté de la création de monnaie complémentaire, c'est dire, nous, effectivement, on va prendre notre part dans cette création de monnaie. Mais c'est aussi dire que notre monnaie complémentaire que l'on va créer, c'est pour permettre une relocalisation de nos activités. C'est pour pouvoir financer des activités qui ont, je dirais, une forte valeur ajoutée sur le plan social, humain, environnemental. Et je dirais que, je crois que, mais René le dira bien mieux que moi, que c'est à l'occasion du premier forum national de la désobéissance de l'an dernier que la ville de Grigny a lancé son Grignoro.
C'est la première fois que j'entends parler, mais je trouve ça très intéressant. Vous pouvez nous parler de cette monnaie complémentaire? Je ne savais pas que c'était une possibilité.
C'est une monnaie complémentaire, comme le disait Paul, qui s'appelle le Grigny Euro. Puisque les habitants de Grigny s'appellent les Grignoraux, hein, mais OT, et là c'est EU, ah, d'accord. C'est un clin d'œil à l'euro, voilà. Et donc cette monnaie complémentaire, comme le dit Paul Ariès, c'est une monnaie qui permet des échanges au niveau local, et pas n'importe quel échange, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller acheter son sandwich dans une...
Son Big Mac.
Voilà, son Big Mac par exemple, mais on va plutôt aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus solidaire. Les AMAP.
Ça rappelle un peu les SEL aussi, services d'échange locaux.
Ça y ressemble beaucoup, sauf que là, on échange à partir de la monnaie. Et je trouve que c'est quand même un exemple qui est très fort. D'une part, ça permet de relocaliser l'économie, puisque la monnaie locale ne fonctionne que sur un périmètre donné. On essaie de faire en sorte aussi que cette monnaie locale-là, elle ne permette pas de s'enrichir. C'est-à-dire qu'il est hors de question de prêter cette monnaie-là à un taux élevé. C'est plutôt une monnaie dégressive. Donc, c'est un engagement militant qui va dans le sens de la relocalisation, puisque c'est quelque chose aussi qui nous tient extrêmement à cœur, notamment en matière de désobéissance.
En termes de je ne sais pas si on peut parler de territoire, mais en tout cas, il y a un territoire, je dirais, dans le domaine de l'agriculture. La ville de Grigny soutient l'association Cocopelli, qui a été condamnée récemment par le tribunal de grande instance de Nancy et la Cour de justice de l'Union européenne pour concurrence déloyale à des grands semenciers. Vous pouvez nous expliquer, réexpliquer en quoi il y avait concurrence déloyale et ce qui, selon vous, nécessite le soutien d'une telle association?
Aujourd'hui, seules les graines qui sont inscrites au catalogue européen peuvent être vendues en France et dans le monde. Sauf que pour être inscrit au catalogue européen, il faut payer très cher. Et toutes les années, d'ailleurs, je crois. Donc ce sont les grands semenciers qui se sont appropriés ce catalogue-là et ont laissé de côté toute une série de graines qui aujourd'hui qui sont pas stables, mais que les paysans utilisent et ont utilisé jusqu'à aujourd'hui et qui ont permis d'ailleurs de lutter contre un certain nombre de famines, parce que c'était des graines qui étaient propres à des régions, à des départements ou à des villages. On se souvient du maïs de la Bresse, qui demandait beaucoup d'eau que le maïs qu'on plante aujourd'hui dans la Bresse, par exemple. Mais comme ces graines-là sont reproductibles, ça ne va pas dans le sens des grands semenciers aujourd'hui, puisque eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que les graines ne soient pas reproductibles. Et quand elles le sont, il y a des amendes pour ne pas les reproduire, etc., etc. Donc voilà. Donc nous, on travaille sur ce secteur-là avec Cocopelli. On fait des semis désobéissants au printemps, qu'on recueille à l'automne, et on va le faire d'ailleurs la veille du forum. Et on reverse à Cocopelli la moitié des graines qu'on a récoltées.
Et il s'agit, j'imagine, d'être dans le cadre de la sauvegarde des diversités des espèces.
Sauvegarde de la diversité, et puis c'est dire haut et fort, on ne laissera pas à l'Union européenne et au catalogue européen la même mise sur un certain nombre de graines que nous, on veut continuer à semer, parce qu'on considère que, oui, elles ne sont pas stables, et alors, si les tomates n'ont pas la grosseur que veulent les supermarchés, l'essentiel pour nous, c'est qu'elles soient bonnes.
Oui, puis cette instabilité, c'est bien ça le principe de la diversité biologique. Hein.
L'évolution repose sur la non-stabilité.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette défense de la biodiversité, mais c'est aussi la défense, je dirais, de la réappropriation par les citoyens, tout simplement ici, de leur alimentation. Je dirais, le type de société pour lequel on combat, c'est une société des usagers maîtres de leurs usages. C'est-à-dire que pour nous, notre objectif, c'est pas qu'il y ait d'un côté les bien-pensants, les experts, les spécialistes qui détiendraient le savoir et qui viendraient l'imposer. Nous, lorsque nous disons que nous sommes pour une démocratie directe, pour l'autogestion, pour la démocratie participative, c'est parce qu'on veut que les gens prennent leurs affaires en main. Et prendre ces affaires en main, ben, ça commence par l'alimentation, mais c'est aussi le logement, c'est la santé, c'est l'éducation. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, quand on parle de désobéissance... Alors, il peut y avoir un débat ensuite pour savoir si le terme est bien choisi ou mal choisi. Mais je dirais que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il s'est imposé à nous. C'est-à-dire qu'on voit comment aujourd'hui le vocabulaire politique, mais aussi les formes d'engagement, sont en train de se renouveler. Hein? Moi, je suis aujourd'hui très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. Les Indiens d'Amérique parlent du summa cafse, la recherche d'une vie équilibrée. En Équateur, en Bolivie, on parle du buen vivir, le bien vivre. En Inde, on parle d'une vie pleine. Ailleurs, on parle d'une vie bonne. C'est plein de façons de dire qu'il faut passer, je dirais, des passions tristes aux passions joyeuses. Avec ce système, on s'en prend plein la tête. Si en même temps, dans nos formes de lutte, on est toujours, je dirais, sur la défensive, si on est pessimiste, on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut, c'est commencer dès maintenant à réaliser des petits bouts d'une autre société. Pour donner envie, pour susciter le désir. Parce que c'est pas en culpabilisant les gens, salauds de pauvres qui osaient revendiquer alors qu'il y a le feu à la planète, ou c'est pas en appelant la responsabilité qu'on y arrivera. C'est en donnant envie, en suscitant le désir. Et je dirais que ces graines Cocopelli, c'est des petites graines de révolte. Mais comme toutes les autres actions que l'on peut mener. Et nous, notre objectif, bien sûr, c'est que ces graines, on les sème et qu'elles germent. Et qu'elles donnent envie aux gens déjà de se rencontrer. Ça, je crois que c'est l'essentiel. Et de se rencontrer pour partager. J'allais dire pour partager de bons moments. C'est la raison pour laquelle le premier forum national l'an dernier de la désobéissance, mais le deuxième encore cette année, je dirais, il y a l'aspect politique, mais il y a l'aspect fête aussi. Et les deux sont indissociables.
Oui, donc ce forum terminera par un grand banquet désobéissant. En quel sens il est désobéissant, le banquet, au sens que c'est le banquet du forum de la désobéissance?
C'est le banquet du forum de la désobéissance, ouais. Ce que je voulais ajouter, moi, par rapport à ce que vient de dire Paul, c'est qu'il y a de la désobéissance positive. On en parlait tout à l'heure. La ville de Grigny a créé un centre de santé. C'est pas de sa compétence que de se préoccuper des problèmes de santé. Sauf que on a un problème avec les médecins qui soit ne veulent plus s'installer, soit ne sont pas formés parce qu'il y a le numerus clausus qui fait qu'on a de moins en moins de médecins en France, etc., etc. Et on se retrouve en pénurie de médecins. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend l'arme au pied en disant « ben on va essayer de demander au gouvernement de faire quelque chose » Non, nous, on a désobéi en disant « c'est pas de notre compétence, on crée un centre de santé, on embauche des médecins et on fait le tiers payant ».
Oui, donc, et en ce sens, vous sortez du cadre...
C'est une forme de désobéissance, mais qui, celle-ci, est très positive.
Et vous en subissez des conséquences de cette désobéissance-là?
Pas pour le moment. On en subit des conséquences, oui, en ce qui concerne les expulsions locatives ou les OGM, où on est traduit vers le tribunal administratif, oui. Mais bon, c'est...
Je lis aussi que les participants du forum seront conviés le 30 septembre à faire du tourisme désobéissant.
Ouais, c'est quelque chose qu'on avait prévu. Alors, je ne sais pas si on le fera, ça sera en fonction du nombre d'inscrits. Donc, l'Office du tourisme du Grand Lyon et l'antenne de Givors organisent souvent des visites de friches industrielles, etc., etc. Et on voulait, justement, à l'occasion de ce forum de la désobéissance, pouvoir amener des gens sur des lieux de lutte, Et Dieu sait s'il y en a dans la vallée du Gier et autour de Givors et de Grigny.
Radio Cano.
Faut de la poésie, faut que les bruits soient énormes.
Самая независимая радио.
Keep on, not only a transformer. if you... If you do not practice justice, you have not seen God.
C'est la fête derrière, la millième de Bistan Claque, c'était tout à l'heure. Là, c'est Chasseur de Son. On vient d'écouter Arc, un extrait de son album Caliente, le titre Preacher. Nous, on continue avec René Balme, le maire de Grigny, et Paul Ariès, le directeur de la rédaction de la revue La Vie est à nous, le sarcophage, qui organise eux deux, la mairie de Grigny et cette revue, le Forum national de la désobéissance citoyenne, samedi à Grigny, ça commence à 9h et ça se termine à 23h je crois, il consiste en 3 ateliers ce forum, notamment un sur le thème désobéir à la dette avec le comité pour l'annulation de la dette du tiers monde qui s'occupe maintenant de notre monde à nous, hein. Je me demandais ce que signifiait le mot extractivisme. On revient donc dans notre interview avec Paul Ariès.
Si on a souhaité ce partenariat avec le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, c'est parce que nous sommes convaincus qu'on est en train de préparer avec l'Europe le même mauvais coup qu'on a fait avec les pays du Sud.
C'est-à-dire qu'on parlait du FMI, de plan d'ajustement.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que les pays du Sud, on les a poussés à s'endetter pour ce qu'on appelle les grands éléphants blancs, hein, c'est-à-dire ces opérations néocoloniales. Et après, on leur a dit, mais attendez, vous êtes beaucoup trop endettés, donc il faut des plans d'ajustement structurel, c'est-à-dire qu'on l'a coupé, on a cassé les services publics. Et aujourd'hui, on est en train de nous faire exactement le même coup. C'est-à-dire qu'après la faillite des grandes banques hein, qui avaient spéculé, les États sont intervenus pour sauver le système financier capitaliste et on nous dit, attendez, c'est monstrueux, vous êtes trop endettés. Donc, alors on n'ose pas dire encore, hein, programme d'ajustement structurel, mais le cœur y est. Hein, c'est la raison pour laquelle je dirais que quand on va tenir cet atelier, c'est pour montrer ce parallélisme qui existe entre la situation qui est celle des pays pauvres et celle des pays riches et de dire que globalement, c'est le même régime d'austérité qu'on nous impose. Et qu'aujourd'hui, je dirais que la première normalité de ce nouveau président de la République qui se veut un président normal, c'est de dire que, par exemple, il n'y aurait pas de solution sans croissance. Hein. Et à ce moment-là, oui, effectivement, on rejoint le combat qu'est le pays du Sud contre ce qu'on appelle l'extractivisme. L'extractivisme, c'est quoi ? Moi, j'aime beaucoup ce mouvement qui est né au Brésil. Ces mêmes paysans qui ont fondé le mouvement des paysans sans terre ont fondé ensuite le mouvement des affligés, c'est-à-dire des victimes des barrages. Et le MAB, le mouvement des affligés contre les barrages, n'est pas par principe contre l'énergie hydraulique. Ils disent simplement, l'énergie, on en a déjà assez pour les besoins de la population. Je dirais, c'est le système industriel, ce sont les capitalistes qui ont besoin de toujours plus. Donc, on veut lier l'ensemble des problèmes. Et puis, je crois que ce qui est aussi intéressant dans ce premier atelier, c'est que on n'a pas résisté au plaisir d'avoir une conférence gesticulée.
Ah, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce qu'une conférence gesticulée ? Est-ce que c'est pour les sourds et muets ?
Alors, ça peut être pour les sourds et muets en partie. Non, c'est tout simplement ce qui est en train de se développer un peu, sous l'égide de la coopérative Le Pavé. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner des formes d'expression qui soit peut-être plus souriante, plus joyeuse que simplement les grandes conférences traditionnelles. Je crois qu'il faut s'adresser aujourd'hui à la population, je dirais avec la tête, mais aussi avec le cœur et les tripes. Donc il s'agit d'un mini-spectacle qui vient compléter. Je dirais que ce n'est pas une illustration, c'est une façon de dire, je dirais, avec un spectacle, ce que des mots ne suffisent pas à exprimer. Et puis on retrouve cette idée de partage, on retrouve cette idée de joie qui est indispensable.
Sur l'atelier numéro 2, désobéir à l'UE et à l'Union européenne, donc au traité Mercosy, comme il est appelé là, mais donc aujourd'hui c'est aussi le traité de Hollande, hein, qu'on cherche à nous imposer. Donc le vote pour l'instant est prévu à l'Assemblée et donc aucun référendum n'est prévu. vous demandez un référendum, moi j'ai entendu parler de ça aussi deux, trois fois à la radio. Est-ce qu'il est encore possible d'organiser un référendum, sachant qu'il me semble que le vote doit intervenir très prochainement, et de quelle façon l'imposer un tel référendum ?
Sur l'Europe, il n'y a pas que l'histoire du traité Merkozy. Il faut savoir que le Parlement français passe 80% de son temps à transcrire en droit français des directives européennes. Les directives européennes, ce n'est pas les élus, hein, c'est la Commission.
C'est la Commission.
D'accord ? Donc on peut quand même s'interroger sur la légitimité des directives que le Parlement transcrit dans le droit français. Est-ce que c'est démocratique ou pas ? Donc à partir de là, il y a des formes de désobéissance qui doivent s'organiser, mais c'est plus qu'un devoir, c'est impératif. On ne peut pas laisser passer des choses qui n'ont pas été décidées démocratiquement. Donc je pense que là, il y a un champ qui s'ouvre à nous et dans lequel il faut que les élus, mais pas seulement, les citoyens, les groupes d'individus aillent et enfoncent le coin.
Et je veux dire, concrètement, comment on s'y prend ? Par une pétition, par des manifestations ?
Toutes les formes d'action sont possibles, et d'ailleurs, la rencontre de samedi permettra aussi d'échanger sur les expériences.
Et peut-être
de mener des expériences.
Voilà, et de travailler à la convergence des initiatives qui sont prises. C'est vrai qu'il y a le lendemain une manifestation nationale, hein, le 30, il y a à l'échelle européenne aussi un projet de pétition qui circule, pétition d'initiative citoyenne, pour obliger le Parlement à bouger. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous sommes de gauche. Nous sommes de gauche, mais nous disons, nous avons désobéi sous la droite, mais nous désobéirons aussi sous la gauche. Et quand on dit ça, je dirais, c'est pas une sorte de coquetterie, hein. C'est parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas de changement possible si les gens ne se mobilisent pas. Je dirais qu'on ne peut pas attendre, je dirais même si on leur accorde, c'est pas sûr d'ailleurs qu'on le fasse, mais une sorte, je dirais, de vertu immédiate. On ne peut pas s'attendre à ce que le changement vienne d'en haut. Donc, appeler aujourd'hui à la désobéissance, pour nous, c'est aussi une façon de tirer les enseignements, j'allais dire, du XXe siècle. Le grand problème pour la gauche, le XXe siècle l'a montré, c'est pas de prendre le pouvoir. Le grand problème, c'est même pas de le partager, c'est de s'en défaire du pouvoir. C'est-à-dire, c'est d'apprendre effectivement à rendre ce pouvoir aux citoyens. De développer, je dirais, cette horizontalité plutôt qu'un rapport vertical. Eh bien, notre forum de la désobéissance, je dirais que c'est un des moments, un des maillons qui va dans ce sens-là, qui participe à la refondation d'un projet d'émancipation.
Très bien. Alors, un dernier atelier, en tout cas un ensemble d'ateliers peut-être sur la formation à la désobéissance. Et je vois qu'il faut former les citoyens, bon, il s'agit de désobéissance citoyenne, mais qu'il y a quand même quelque chose de particulier peut-être à l'intention des élus. Quelles sont les formes de désobéissance qui vont être spécifiques à l'élu ?
Le CIDEF, donc, qui est le plus gros organisme de formation d'élus en France, hein, nous a fait la gentillesse de venir participer à ce forum, et avec la volonté et le souci de former les élus à la désobéissance.
Alors, c'est un acteur institutionnel, ce CIDEF.
C'est un acteur, c'est un organisme de formation reconnu, etc. etc. Alors, il ne sera pas là pour dire quel type de désobéissance il faut que les élus engagent sur leur commune. Hein. Mais il sera à l'écoute des élus qui vont leur dire, voilà, nous, on désobéit, par exemple, en prenant un arrêté contre les expulsions locatives. Comment on peut, dans ce cadre-là, se border au maximum pour que notre arrêté ait des chances un jour de devenir valide. Quand on lutte contre la culture des OGM et qu'on prend un arrêté, de quelle manière on peut faire en sorte que l'arrêté soit valide ? On sait faire, puisque nous, Grigny, on l'a fait.
C'est-à-dire que quand vous prenez un arrêté, vous risquez qu'il soit cassé par une instance supérieure ?
Par le tribunal administratif, puisque c'est le préfet qui contrôle tout ce que les élus font. Là aussi, il y a matière à désobéir, puisqu'aujourd'hui, le préfet a plus de pouvoir que les élus. On est quand même en démocratie. Moi, je suis un élu du peuple.
Oui, alors,
si je suis élu, c'est sur la base d'un programme municipal. J'ai été élu par le peuple et je dois mettre en œuvre le programme municipal pour lequel le peuple m'a élu. Et dans ce programme municipal, il y avait interdiction des expulsions locatives.
Mais on aura notamment un avocat, Jean-Louis Piru, qui est un des grands spécialistes des villes désobéissantes et qui viendra dire quel est l'état du droit. Mais je dirais que ce troisième atelier, former les élus à la désobéissance, c'est la suite, le complément du travail qu'on avait commencé l'an dernier avec le collectif des désobéissants.
mais qui concerne cette fois de former les citoyens, les militants à la désobéissance. C'est-à-dire comment fait-on ? Quels sont les risques ? Quels sont, je dirais aussi, les enseignements qu'on peut tirer des échecs, parce qu'il y en a, mais aussi des succès. Et puis, je crois surtout que ce terme de désobéissance, je dirais que c'est parfois un nouveau mot pour dire des choses qui étaient déjà là. Je dirais, on a toujours résisté. On s'est toujours opposé, je dirais, au licenciement. On a parfois séquestré des patrons. On a fait des piquets de grève. On s'est opposé, y compris physiquement, aux expulsions. On a nos amis qui travaillent plus dans le champ de la solidarité internationale, qui s'opposent effectivement aux expulsions, je dirais, dans les aéroports, au renvoi d'enfants des écoles, etc. C'est-à-dire qu'on a tout un patrimoine, toute une richesse en matière de désobéissance et de résistance, il faut en être fier. Et je crois que c'est aussi l'un des enjeux de ce forum, c'est de dire, nous, on vient de cette gauche-là. Nous, on ne vient pas de la gauche en costard-cravate. On vient de cette gauche désobéissante, de cette gauche rebelle, de cette gauche maquisarde. Et on rêve effectivement au retour d'une nouvelle gauche buissonnière, mais qui fasse école, c'est-à-dire qui donne envie de multiplier les pas de côté, les alternatives. On n'a pas une sorte de schéma préétabli, hein, on ne dit pas on a un programme de A à Z qu'il faudra appliquer, on n'en est pas capable, en plus on ne croit pas que ça existe, hein, que ça soit possible. Mais on est convaincu qu'aujourd'hui, la seule façon de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes, c'est que les gens soient convaincus de leur puissance. C'est-à-dire que si on s'y met tous ensemble, on y arrivera bien. Et puis, il y a en même temps des travaux, parce que je n'oublie pas que je suis politologue, il y a des travaux, je dirais, en Sciences Po, qui montrent que si 6% d'une population est décidée, eh ben, ça fait bouger les choses. On appelait ça auparavant les minorités agissantes. Mais oui, ça existe. Oui, ça bouge. Et puis, nous, on était particulièrement heureux l'an dernier, ça sera encore le cas cette année, qu'il y ait aussi ce passage de relais entre les générations. Je dirais que parmi les intervenants l'an dernier, et puis les gens qui seront là cette année, il y a notamment les collectifs citoyens résistants d'hier et aujourd'hui autour du plateau des Glières. Et je dirais que les anciens résistants, hein, ceux qui ont lutté, ceux qui ont désobéi face au nazisme et face à Vichy, disent aux jeunes aujourd'hui, le bon combat, c'est celui que vous menez. La vraie question, c'est pas de savoir ce qu'on aurait fait en 1940. La vraie question, c'est de savoir ce qu'en résistant, de 1940-44 ferait aujourd'hui. Et il serait du côté, effectivement, de la désobéissance, il serait du côté des faucheurs de GM, il serait du côté des déboulonneurs, il serait du côté d'un collectif comme Jeudi Noir ou du DAL, etc.
Vous savez qu'on pense à Stéphane Hessel avec ce que vous dites et son petit livret. Je me demandais si le fonctionnaire a pas une position un peu spéciale par rapport à ce concept de désobéissance. Je sais qu'il y a eu des enseignants désobéissants, hein, il y a quelques années. Est-ce que le fonctionnaire qui doit appliquer des directives ministérielles, un certain nombre de réglementations, est-ce qu'il a pas une position, je dirais qu'il n'est pas plus en position de désobéir que d'autres citoyens?
Plus en position de désobéir, je pense pas, mais il a évidemment pas mal d'occasions justifiées d'ailleurs de désobéir. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les enseignants. Mais pas seulement, il y a d'autres fonctionnaires aussi qui décident de désobéir aux ordres parce qu'ils considèrent que les ordres mettent en péril l'intégrité physique ou morale des personnes.
Oui, moi je pensais aux enseignants parce que ça m'est proche, mais j'imagine que dans la police aussi, par moment.
Mais je crois que c'était ce qu'on appelait avant, ça peut sembler un gros mot, mais moi j'y tiens, ce qu'on appelait l'éthique du service public. C'est-à-dire cette idée que la police, la justice, l'école, les chemins de fer, la poste ne sont pas là au service des puissants pour faire du fric, mais pour rendre service le mieux possible. Hein. Il y a toujours des loupés, mais le mieux possible, effectivement, à la population. Et de ce point de vue-là, oui, heureusement qu'existe encore cette culture du service public. Heureusement qu'existe encore des organisations syndicales. Alors, personnellement, je les aimerais parfois un peu plus mordantes, hein, un peu plus combatives. Mais je dirais, on part de là aussi. Et on part de cette histoire. Et si on part de cette histoire, c'est parce qu'on veut la revisiter au présent. Je crois qu'avec René, on partage une même chose. C'est-à-dire qu'on ne croit plus, je veux dire, on ne croit plus ni aux générations sacrifiées, ni au lendemain qui chante. Et si on ne croit pas au lendemain qui chante, c'est parce qu'on veut chanter au présent. C'est-à-dire qu'on est convaincu qu'il est possible dès maintenant, non pas de construire une société parfaite, hein, ça on y a cru sans doute, oui. On n'y croit plus aujourd'hui, mais de construire une société qui fasse tout pour être le plus fraternel possible, le plus solidaire, le plus égalitaire possible. Et oui, c'est possible en même temps. Je veux dire, on peut aller dans cette direction-là.
Alors peut-être on terminera là-dessus, mais il me semble que ça me fait penser au changement de l'évolution du titre. Hein. Le sarcophage devient le sarcophage, la vie est à nous. Et ce que vous disiez évoque ce changement de titre. Vous pouvez nous en dire plus. C'est vrai que l'ère Sarkozy est terminée, alors il y avait peut-être cette nécessité, quoi qu'il en soit.
Alors, le sarcophage avait été fondé le 14 juillet 2007, mais dès le départ, se voulait un journal contre tous les sarkozismes, sous-entendu de droite, mais aussi de gauche. Donc on aurait pu éventuellement conserver ce titre de sarcophage. Mais depuis 5 ans, il y avait un débat au sein de la coopérative qui porte le journal sur le bon positionnement à avoir. Est-ce qu'il faut avoir un titre qui soit sur le versant négatif de la critique, dire ce qui ne va pas, et appeler à résister, ça aurait pu être barricade comme titre, ou objection, ou est-ce qu'il faut être plutôt du côté des passions joyeuses? Du côté de la bonne vie, c'est plutôt ce titre-là qui a été adopté par le collectif. Donc, La vie est à nous, le sarcophage. La vie est à nous, c'est aussi un clin d'œil au film de Jean Renoir de 1936, film qui avait été financé par les ouvriers eux-mêmes, dans le cadre d'une immense subvention, et qui était là pour célébrer les premiers congés payés. Je dirais que c'est vrai que, qu'avec René Balme, on appartient plutôt à la gauche, je dirais, du droit à la paresse, plutôt qu'à une gauche qui soit productiviste. On est plutôt, effectivement, du côté, je dirais, du partage, de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité, plutôt que de dire que il faudrait, par exemple, ce qu'on a fait pour la première fois, la première fois qu'un premier ministre socialiste s'est rendu à l'université du MEDEF. C'est-à-dire que pour nous, effectivement, je dirais ce qui peut apparaître comme, je dirais, de vieux combats, la lutte des classes, ça reste toujours sacrément d'actualité. Et puis, je crois qu'il y a une autre chose qui nous anime aussi pour être désobéissants. C'est-à-dire que la gauche n'a pas le droit de se tromper. La gauche n'a pas le droit d'échouer. Sinon, en 2017, on va avoir une droite qui sera encore beaucoup plus à droite. Et ce qui nous effraie, nous, particulièrement, c'est cette montée de l'extrême droite aujourd'hui à l'échelle européenne. Et je dirais qu'être désobéissant aujourd'hui, c'est aussi dire que cette extrême droite, je dirais, elle nous trouvera devant elle. Mais je dirais que la meilleure façon de lui résister, c'est de susciter le désir, c'est de donner envie, c'est de montrer aux gens que la solution, c'est pas de rejeter le plus faible, c'est pas de rejeter l'immigré, c'est au contraire de partager, c'est de construire des communs. Nous sommes partisans d'une société de la gratuité. Je veux dire, tout ne peut pas être gratuit. Il va falloir choisir. C'est à la population de choisir. Nous sommes pour que les gens aient le droit, effectivement, à avoir ce qui permet de vivre, certes frugalement, mais de manière totalement sécurisée. Et je crois que c'est la seule certitude, le seul moyen, si on veut prendre au sérieux ce qui avait été le mot d'ordre du Front de la Gauche au moment des élections, l'humain d'abord. Car pour nous, ce n'est pas une formule. L'humain d'abord, ça veut dire concrètement, oui, la société est assez riche. Ça, c'est une bonne nouvelle. La société, elle est assez riche pour permettre à chacun de vivre. La société, elle est assez riche pour faire tomber les frontières. La société, aujourd'hui, elle est assez riche et responsable pour dire qu'il faut un désarmement, etc. C'est-à-dire nous sommes porteurs de toutes ces traditions, je dis bien ces traditions des gauches. C'est-à-dire qu'au forum de la désobéissance, il y a des gens qui viennent des multiples familles de gauche qui vont être présents. On a même des copains socialistes qui vont être là parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique actuellement menée. Et on ne leur demande pas, je dirais, de brûler ce qu'ils adorent. Je dirais, chacun vient avec son histoire, chacun vient avec ses tripes et son cœur. Mais en revanche, on se reconnaît, oui, sur un certain nombre de valeurs, et on va essayer de construire des choses ensemble.
Radio Canu. La plus rebelle des radios.
La radio ne dort pas. All right. Sont détachés de chaque aspect de la vie, fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant.
Thank you. Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Bon, il va être l'heure de se quitter bientôt. Juste le temps de vous annoncer que ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, c'était à l'instant eh bien, le camarade Radio Bombe qui remixait Laurent de Wild et Autisto 23. Il y a eu aussi avant lui Banditos, J.B. Lidl aussi. Au tout début de l'émission, un petit extrait de 69 dB in dub technique. Et puis, je vous annonce, je vous réannonce la tenue ce week-end du forum de la désobéissance citoyenne qui se tiendra à Grigny à partir de 9h. Ça se passe au gymnase Scola, rue de la République à Grigny, voilà, samedi pour le forum de la désobéissance dont on parlait aujourd'hui dans Chasseurs de Son. On se quitte, cette fois c'est dit avec. On se quitte avec. Comment il s'appelle déjà celui-là? Et ben voilà. Encore raté. Stalker. Voilà, on se quitte avec Stalker. À la semaine prochaine.
L'amour défendu, l'amour défendu, l'amour défendu.